Voilà, les informations sont terminées. En deux noirs, deuxième partie. Jacques, c'est toi qui commence.
Oui, avec David Defendi. C'est un nouveau venu dans le monde de la littérature policière, mais certains le connaissent peut-être déjà parce qu'il a été, entre autres, le co-scénariste de la série Braco pour la télévision, donc la série d'Olivier Marchal.
Une des bonnes séries françaises, si je ne m'abuse.
Voilà, donc Tête de Dragon, c'est le nom de ce roman. C'est son premier roman et il est paru tout récemment chez Albin Michel. Enfin, cela commence par une partie de poker en Seine-Saint-Denis. Christo, celui qui va être le héros, un peu malgré lui, de ce roman, se décrit ainsi dans les premières lignes, dans les premières pages. « Je suis un tricheur, un meurtrier, une pourriture. J'ai menti, bluffé, contourné les lois, trahi les femmes, mes amis et toutes les personnes qui ont croisé ma route. »
Bref, un beau héros de polar, c'est ça?
A priori, pas vraiment quelqu'un dont on va faire le personnage principal d'un polar. Et pourtant, c'est exactement ce que fait David Defendi. Cette partie de poker va mal tourner pour Christo, qui est un ancien légionnaire. Il va se retrouver en tôle, puis plus ou moins enrôlé dans un service secret qui lutte contre les trafics d'œuvres d'art, et plus particulièrement celle des antiquités chinoises. Ce qui explique un peu le titre du roman, Tête de Dragon, tête étant au pluriel, les têtes de dragon étant des objets un peu sacrés pour les Chinois. Et il va en fait devoir infiltrer un gang pour aider ses employeurs. Appelons-les comme ça. Toi, il est rémunéré, ceci dit, hein, donc oui, c'est ses employeurs.
Même les salauds gagnent leur vie.
Voilà, hein. Et donc c'est ses employeurs, c'est la DGSI. Et donc, il va infiltrer ce gang pour essayer de les aider à démanteler le réseau. Le roman va osciller entre un polar à l'ancienne, les truands, les parties de cartes, l'atoll, mais aussi le roman d'espionnage avec les mecs infiltrés, les rencontres de Christo, donc avec son responsable dans des hôtels miteux, et puis aussi un peu d'exotisme, vaguement James Bondien. La Chine, il y a toujours un petit peu ça dans les James Bond.
Aussi bien le côté exotique, en
voilà,
fait.
Voilà, exactement. Aussi bien à Paris qu'en Chine, parce qu'ils iront en Chine. Et puis, il y a la belle étudiante chinoise, de superbes objets rares, et aussi...
Les têtes de dragon. Non, pardon.
Les têtes de dragon, bien évidemment. Et aussi les triades. Donc, en Chine, il y a les triades avec leurs rites. C'est aussi, en fait, un véritable thriller, parce que ça va vraiment à 100 à l'heure. Et en fait, ce qui fait la force de ce livre... C'est qu'il y a tout ça, ce que je viens de dire, donc le polar à l'ancienne, le roman d'espionnage, le thriller, en 215 pages. David Defendi va à l'essentiel. Il ne s'attarde pas vraiment trop sur les états d'âme de Christo, ni sur aucun des autres personnages d'ailleurs. Il nous raconte une histoire, tout en nous intéressant au pillage et à la mise à sac du palais d'été de Pékin en 1860 par les troupes franco-britanniques. C'est une histoire de trafic d'opium en même temps qui a créé ça, mais vous lirez. Et il nous parle un petit peu aussi de la DGSI, dont les buts sont parfois, disons parfois, aussi peu avouables que leurs méthodes sont peu délicates. C'est un euphémisme d'ailleurs de le dire. Son écriture est très sèche, son style nerveux, pas de grandes phrases, des dialogues très efficaces, jamais de bavardage inutile. Et malgré tout, il réussit. Je ne sais pas pourquoi je dis malgré tout d'ailleurs. Il réussit aussi ses scènes d'action, de bagarre, et même, c'est pas toujours évident, ses séquences romantiques ou un peu plus, pas forcément romantiques, mais un peu plus hautes, disons.
Un peu plus chaud, oui, j'allais dire chaud, ce qui revient voilà. Exactement au même.
C'est vraiment une très belle surprise pour un premier roman, pour un roman tout court d'ailleurs, et il n'est pas impossible qu'il y en ait d'autres du coup, parce que.
Est-ce qu'on bien. Sent la patte d'un scénariste ou ça reste vraiment.
Oui, il y a un peu de ça. Ça fait un peu. Il y a des moments, ça fait un peu film policier en noir et blanc. Et puis d'autres, ça fait vraiment une série de maintenant. Mais c'est quand même. C'est très écrit. Hein.
Donc une jolie nouveauté.
Une jolie nouveauté. Donc David Defendi, Tête de Dragon chez Albin Michel.
Eh bien moi, je vais continuer en vous parlant d'un roman paru chez Phébus qui s'appelle Accident. Et qui était d'un auteur que l'on suit beaucoup, parce qu'on aime beaucoup, beaucoup son écriture, c'est Olivier Bordassar. Accident, le titre, ce mot va être habilement décliné par l'auteur tout au long du récit.
Accident au pluriel.
Accident au pluriel, oui d'ailleurs, ce sont les meurtrissures de la chair et de l'esprit. Chacun des personnages, tour à tour, en même temps, avant, après, vont blesser, se blesser, en un carambolage magnifiquement mis en scène par Olivier Bordassa.
Ah, faut dire que la scène de l'accident est étonnamment...
Chut, on dit rien, Jacques, enfin. Enfin, peut-être
c'est
on dit
le début.
C'est le début, mais quand même. Premier personnage, ou tout au moins presque le premier personnage, c'est Sergi Velasquez. Velasquez, devinez ce qu'il fait, il est peintre, ça c'est, voilà. Peintre à la recherche de reconnaissance, d'amour, et puis aussi, si possible, un peu de fric. Et il semble que tout arrive en même temps, en la personne de Rebecca, splendide rousse, executive woman. Très vite, Julia, qui est la sœur de Sergi, mais en même temps sa voisine, ils habitent sur le même palier, elle est psychanalyste, et elle va tenter de prévenir son frère, parce que Rebecca est sa patiente, et Rebecca semble juste au bord du crash. À moins d'ailleurs que le récit ne commence avec Roxane, photographe, qui sait si bien mettre en lumière son corps, peut-être, peut-être, pour cacher son visage défiguré par un accident de voiture, d'où la fameuse scène de l'accident dont tu parlais il y a 2 minutes. Et, télescopage, un jour, Sergi va découvrir les photos de Roxane dans une exposition.
Télescopage pour un accident ?
Ben oui, c'est fait exprès. Hein. Donc ces deux destins vont se croiser, se recroiser, les fils vont s'en mêler. Témoin de ces heurts, de ces chocs, le très très paisible Paul. Alors Paul, c'est un personnage fantastique, c'est le mari de Julia, donc vous l'aurez compris, eh ben, il est aussi voisin de Sergi, puisqu'ils habitent ensemble, et par la force des choses, ce très paisible papa, qui est papa de 2 adolescentes et qui a choisi d'être homme au foyer, va être un petit peu le témoin oculaire, un petit peu à la Hitchcock d'ailleurs. Et puis, ça va être la force tranquille, cette façon d'être père au foyer, d'être très très attentif aux affres de l'adolescence de ces deux jeunes gamines. On n'en dira pas plus. Non pas que tout l'intérêt de ce roman tienne dans l'intrigue, quoique, parce qu'en fait, c'est pas du polar, c'est pas vraiment du roman policier, on est dans le noir complet. Mais cependant, on est surtout retenu, happé, par la manière dont l'écrivain tisse sa toile, fragmente son récit et nous laisse avoir quelques éclats. Qui d'ailleurs, ces éclats, nous éblouissent ou nous obscurcissent la vue. Olivier Bordassa avance à pas feutrés, changeant de rythme, de ton, variant l'éclairage. On a apprécié, le premier chapitre, cet accident de voiture où on a vraiment l'impression d'être dans la tête de la personne qui subit l'accident de voiture, cette espèce de remue-ménage absolument dingue. Et puis après, on passe paisiblement à la vie de famille de Julia et de Paul, et puis aux affres du couple entre Sergi et Rebecca. Et puis on part voir Roxane. Voilà, tout ça, ça fait un roman.
Hitchcockien, Rebecca.
Voilà, tout à fait. Ah oui, mais il y a plein de références, mais on va pas les dire. Vous allez les découvrir au fur et à mesure du récit. Alors, donc j'ai dit qu'il y avait vraiment un rythme et qu'il y avait vraiment un suspense par tous ces éclats. Mais j'ai choisi de vous lire un tout petit passage où là, au contraire, c'est les passages très calmes, enfin très calmes. Une vie de famille, un père, une mère, et puis de chippies d'adolescentes. Voilà, donc une des adolescentes s'appelle Valentine. Évidemment, elle s'oppose à ses parents. Valentine prit l'heureuse initiative d'interrompre l'échange des adultes pour réclamer l'autorisation de sortir ce soir et de rester dormir chez Félicie. Elle essuya un refus. Motif ? Elle allait au collège le lendemain. Eh bien justement, elle irait en voiture avec la mère de sa copine. Ainsi, elle pourrait se lever plus tard, donc profiter d'un temps de sommeil supplémentaire, à tout majeur pour... C'était non, on ne sort pas en semaine. Pourquoi ? Pour les raisons exposées plus haut. Alors là, cette situation et cette décision arbitraire étaient scandaleuses. Cela n'avait aucun sens, car justement, elle avait l'intention de se coucher tôt, et elle pourrait, autre avantage, réviser son histoire géo avec sa camarade pour le contrôle du vendredi, et que l'autorité des adultes a un bon... D'ailleurs, où était son père ? Au cinéma. Ah, d'accord. Alors, son père avait le droit de sortir en plein milieu de la semaine, et pas elle. Génial. Voilà, alors toutes ces petites scènes détournent de l'action centrale, des relations entre cette espèce de trinité Sergi, Rebecca et Roxane. Et je vous laisse découvrir la suite. Voilà, un petit morceau de musique.
Un petit morceau de musique. Il vient de sortir juste ces jours-ci un nouvel album des Stones. Ça faisait très longtemps. C'est plutôt rare, donc on va en écouter un extrait. C'est un album de blues. Des vieux blues, que des reprises. Ce qu'ils faisaient au début, en fait. C'était un groupe de blues au départ, au rhythm and blues et les Stones. Et on sent qu'ils aiment toujours ça et qu'ils le font vraiment bien. Donc nous allons écouter All of Your Love, une composition de Magic Sam. Et c'est Jagger qui chante et qui fait l'harmonica.
Your love, baby, can it be mine?
Et voilà, les Rolling Stones, on s'en lasse vraiment pas. Comme d'ailleurs, je crois, du prochain auteur dont tu vas nous parler.
Et oui, parce que c'est un nouveau Camilleri. À l'automne.
On peut dire quand même son prénom. Quand
Andrea Camilleri. Voilà, un nouveau Andrea Camilleri, à l'automne. Ça, voilà, juste de quoi nous faire un peu oublier le Frima, les intempéries et les autres mauvaises nouvelles. Il s'appelle, toujours des beaux titres poétiques, Une lame de lumière. Et il est traduit chez Fleuve Noir, comme d'habitude, par Serge Cadruban. Alors, comme souvent dans les romans précédents, Savo Montalbano, le héros donc, tombe amoureux d'une charmante et plus jeune que lui, donzelle, une galériste de Vigata, donc la ville où il habite. Cette fois-ci, il est même payé de retour et il retrouve presque les émois de l'adolescence. Il envisage même de quitter son éternelle fiancée génoise, Livia.
Elle doit commencer à avoir marre, c'est pas Livia quand même.
Elle sait pas tout, heureusement. Et heureusement donc, façon de parler, une enquête compliquée va lui faire penser à autre chose. Car avec cette histoire où il revient à l'adolescence, il en perdrait presque l'appétit. Montalbano qui perd l'appétit. En fait, c'est même deux autres enquêtes qui vont l'occuper. Une histoire de viol et de vol, qui sont peut-être simulés l'un comme l'autre, et une histoire de terroriste qui serait planqué dans la région. Pour l'histoire du viol, il va utiliser les talents de son adjoint, Mimi Aoghello, dont les talents de séducteur et de dragueur sont bien connus, pour confondre là où les coupables. Pour l'autre, celle des terroristes, Salvo va devoir utiliser tout son savoir-faire, et il va en avoir besoin. Alors vous allez dire, encore un Camilleri, il réutilise toujours les mêmes artifices avec son héros. Mais non, c'est parce qu'en fait, depuis quelques... les repas, exactement. Mais non, en fait, parce que depuis quelques épisodes, quelques romans en fait, je dis épisodes, Camilleri joue avec son héros et aussi avec ses lecteurs. Les scènes déjà vues, les scènes déjà lues, sont autant de clins d'œil. Comment vais-je faire pour me débarrasser de cette nouvelle femme? Il ne la tue pas, mais il faut bien qu'elle s'en aille, puisqu'il y en aura une nouvelle dans le roman suivant.
Et puis il y a toujours Livia Agen quand même.
Il y a toujours Livia Agen. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir inventer comme nouvelle catastrophe pour Catarella? Ou quel petit plat vais-je bien lui faire avaler? Mais Camilleri, il y a du fond aussi. Il continue à travers ses romans à nous raconter sa Sicile dans le monde d'aujourd'hui. Dans cet épisode, j'ai déjà dit épisode tout à l'heure. Il sera question des migrants. Et en Sicile, en ce moment, on peut difficilement faire l'impasse sur le phénomène, même dans un roman. Ceci dit, dans un roman noir, ça a toute sa place. Alors les fans de Montalbano, soyez rassurés, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils perdraient presque l'appétit. En fait, ils le retrouvent, le petit, comme il dit, bien avant la fin du livre. Un petit extrait pour vous rassurer. Quand le coup de fil fut terminé, il se dirigea vers la cuisine en chantant la marche d'Aïda. Il a décidé de faire un jeu, fermer les yeux et deviner à l'odeur ce qu'Adelina lui avait préparé. Le réfrigérateur puait le vide. Il ouvrit le four et ses narines s'emplirent immédiatement d'un duo de parfums enivrants. Il ne lui fallut pas longtemps pour les distinguer l'un de l'autre. Les tagliatelles en sauce à la viande et aubergines à la parmesane. Peut-on réclamer autre chose de la vie? Voilà, quand on lit un roman de Montalbano, de Camilleri, on est juste comme dans ses chaussons d'hiver, bien au chaud, tranquille, et on déguste tout simplement.
Et les repas, et évidemment, la littérature.
Donc une lame de lumière de Andrea Camilleri au Fleuve Noir.
Voilà, et puis on ne saurait terminer cette émission sans faire un petit salut à Gottlieb qui a disparu il n'y a pas longtemps. Et voilà, on lit beaucoup beaucoup de romans policiers depuis des années, mais avant il y avait les rubriques à braque, il y avait les dingos dossiers, donc...
Voilà, il doit y avoir une coccinelle toute triste.
Ouais, elle doit être toute triste, elle doit avoir perdu ses petits points. Voilà, et bien chacun dans son coin avec un bon bouquin, on vous souhaite de bonnes lectures et à très bientôt.
Au revoir.